Philippe Hirsman voudrait introduire des nuances.
Sur la prise, là, je trouve qu'il y a un élément, enfin ça c'est des réponses techniques, il y a aussi un élément énorme qui a été évoqué, mais je trouve qu'on zappe un peu plus sur le fait qu'il y a une grande incertitude sur l'avenir, qui est la fiscalité qui sera attachée à l'électricité chargée d'alimenter les véhicules. Parce que vous savez que la fiscalité aujourd'hui sur l'essence, enfin, sur les carburants liquides, c'est 80%, et que l'État, s'il observe un transfert progressivement massif d'un mode d'énergie sur un autre mode d'énergie, va pas rester insensible à la perte de recettes. Et donc, il va forcément se passer quelque chose, aujourd'hui, demain ou après-demain, d'assez important en termes de fiscalité. Bon, et puisque j'ai la parole, enfin, je suis pas là pour apporter la contradiction, je suis là pour peut-être rééquilibrer un peu des choses qui ont été dites. Donc, il faut pas polémiquer, mais il y a un certain nombre de contradictions sur lesquelles je souhaite au moins alerter et inciter à une certaine réflexion. J'ai pas le temps d'en prendre beaucoup, mais il y en a un qui me tient à cœur, c'est, donc, qui n'est pas une polémique sur les capacités technologiques d'évolution, qui, encore une fois, je redis ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit, qui est que ce sera long, difficile et coûteux, mais ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas. Hein. Tout ceci peut être boosté par des politiques publiques qui ont été évoquées, dont je ne reviens pas. Par contre, il y a deux choses sur lesquelles il faut rééquilibrer le discours, qui est premièrement la politique pétrolière et deuxièmement la politique développement durable environnement. Sur la politique pétrolière, je vous rappelle que depuis le Club de Rome, on passe son temps à annoncer des catastrophes qui n'arrivent jamais. Il y a eu le premier choc pétrolier, le deuxième choc pétrolier. Tout ça pour dire que, bien sûr, le pétrole est une ressource finie. Mais on n'arrête pas tous les 5 ans de repousser de 30 ans le peak oil ou la fin de l'approvisionnement. Mais il y en aura un jour. Simplement que ça influe sur la politique de coût d'accès à la ressource. Et il faut voir que le nucléaire et l'électricité d'une manière générale ne peuvent pas être la solution, la panacée universelle. Parce que si vous raisonnez au niveau de la planète, où vous savez, enfin je dis ça de mémoire, je veux bien être contredit, mais l'ordre de grandeur, c'est 20% d'électricité d'origine nucléaire et 10% de l'énergie, en incluant les transports, vient du nucléaire. Ça veut dire que le reste, c'est pratiquement du charbon. Et tant qu'il n'y a pas de la séquestration, vous êtes en train de passer d'une dépendance pétrole vers une autre dépendance fossile, qui est la dépendance charbon. Et l'investissement nucléaire n'arrivera pas à un rythme tel qu'il pourra modifier très rapidement cet équilibre. Bon. Donc oui, il y a un problème de dépendance pétrole, mais est-ce qu'on n'est pas en train de déplacer le curseur vers une autre dépendance sur laquelle aujourd'hui on annonce les solutions et les pistes, mais elles ne sont pas là. Et 80% de l'énergie, ça va être du charbon pour l'instant sans séquestration. Et deuxième et dernier élément de pondération, je sais que c'est un sujet de divergence de vue, on va dire, constant depuis des missions énergie et puis véhicules avec EDF, qui est qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je m'explique. Quand on fait des voitures, en France, une voiture électrique, d'ailleurs je note qu'en passant que les chiffres de grammes de CO2 par kilomètre annoncés par Renault sont encore meilleurs que ceux d'EDF, ce qui est rigolo si on considère que EDF est quand même, c'est son boulot de vendre de l'électricité. Bon, donc merci à Renault de booster dans le sens de la performance maximale, mais en tout cas, sur les ordres de grandeur, c'est entre 10 et 20 véhicules électriques avec du nucléaire au derrière, c'est 10 ou 20. C'est vrai ce que dit M. Pelletac, c'est une rupture technique phénoménale par rapport aux ordres de grandeur actuels qui sont 100 à 200, on va dire, à la louche. Bon, ceci dit, quand on fait une voiture électrique, on ne la fait pas pour le marché national uniquement. On l'a fait au moins pour l'Europe. On espère bien l'exporter ailleurs. Et si vous exportez des véhicules électriques conçus et fabriqués en France avec des performances de 10 pour le nucléaire, ces voitures en Pologne, en Allemagne, dans une moindre mesure, et au Japon, ils vont faire du 100 ou du 120 ou du 150 grammes par CO2. Donc, c'est pas un drame. Simplement, il faut pas faire croire que le véhicule électrique est la solution universelle de la réduction du CO2 à l'échelle de l'Europe et à l'échelle de la planète. Deuxièmement, autre sujet de controverse là-dessus, sujet de controverse entre EDF, nous, RTE, etc., qui est que la nuit, en charge lente, il n'est pas si évident que ça que les recharges sur votre prise dans votre cave ou dans votre jardin se fassent sur du nucléaire. L'observation des échanges, importations, exportations et la mise en service des équipements thermiques d'EDF et puis des autres producteurs montre que cette évidence n'est pas aussi immanente et qu'il faut arrêter de croire que parce que vous rechargez votre voiture la nuit, cette recharge va se faire sur du nucléaire. Et troisièmement et dernier point, là je parlais de la charge lente, M. Pelletac dit qu'un des axes de réduction du phénomène anxiogène pour avoir un véhicule électrique, c'est la station de transfert, mais aussi la charge rapide. La charge rapide, ça va être 2 jours. Essentiellement, on ne va pas avoir des foules qui vont faire des charges rapides dans la rue à 4 heures du matin. Et donc, on retombe un peu sur cette problématique qui est que, oui, le véhicule électrique, c'est un plus énorme en France, l'avantage comparatif en termes de politique de réduction de CO2 n'est pas si évidente. Déjà en France, à cause de l'utilisation de la production en base des kilowattheures nucléaires, qui n'est pas forcément celle qu'on croit, et deuxièmement, a fortiori en Allemagne et a fortiori dans des pays comme la Pologne, la Chine et l'Inde, que ces véhicules n'amènent pas un plus décisif dans la politique de réduction des gaz à effet de serre.
Réponse rapide.
Juste un point, parce que là, ça, je ne peux pas laisser passer ça. Il y a manifestement une erreur de calcul et ça va s'illustrer par un ordre de grandeur simple. Le système électrique français émet en moyenne à peu près 60 grammes de CO2 par kilowattheure. En gros, en moyenne. C'est à peu près 6 fois moins, c'est entre 6 et 7 fois moins que la moyenne européenne. S'il y a tant d'heures que ça où on tire sur le fossile, quand on tire sur du fossile, c'est entre 300 et 800. S'il y a tant d'heures que ça où on tire sur le fossile à 300 ou 800, il doit quand même y en avoir énormément où on tire zéro, et je vous prie de croire qu'elles sont plutôt la nuit et les week-ends d'été.
Bien sûr. Moi, je pense qu'on ne cherche pas le même Graal.
Ça, c'est sûr.
C'est-à-dire que quand j'entends votre argumentation, Philippe, j'ai l'impression que vous pensez que c'est une solution qui va s'imposer partout. On dit que c'est 10%, ça montera peut-être après 20%. On ne le sait pas encore, ça va dépendre de la technologie des batteries. Foncièrement, ça va dépendre de ça. Si les densités sont multipliées par 3 ou par 4 et que le coût est divisé par 3 ou par 4, croyez-moi, ça va aller plus vite que ça. Si ça progresse à 2 ou 3% par an, ça va aller plus lentement que ce qu'on a dit là. Mais on ne cherche pas le même Graal parce que je pense que la lutte contre le réchauffement planétaire aujourd'hui, ça veut dire des milliers de choses différentes. Ça, c'est une parmi d'autres. Et notre rôle est relativement modeste. Nous, c'est de jouer un rôle de pionnier, d'en profiter. Et on pense que c'est bien que Renault fasse ça. C'est tout. Avec 10% du marché mondial, je vous dis, ça fait 6 millions de voitures. Si nous, on fait un tiers de nos voitures ou un quart de nos voitures là-dedans, ça nous fait quand même un très beau marché. Et si avec ça, des Français, des Japonais, des Israéliens, des Danois, des Anglais, des Espagnols, des Marocains, et toutes les îles, hein, parce que les îles, elles sont très intéressées, parce que le car to grid, ça leur permet de réduire leurs investissements capacitaires, donc Singapour, La Réunion, l'île Maurice, Hawaï, j'en passe, et des meilleurs, sont aussi intéressés. On fera peut-être dans ces marchés-là qu'un peu plus de 10%, c'est largement suffisant pour Renault. Après, ce que je crains, c'est qu'en Chine, ça fasse 15 ou 20%, parce que là, avec de la séquestration de carbone, dans ce cas-là, je peux vous dire, ça va aller très très vite, et là, je ne suis pas sûr que nous, on arrive à suivre. Donc on ne cherche pas le même Graal, je suis persuadé, moi, que des solutions comme ça, il y en aura des dizaines. Je vais vous citer juste un exemple d'un gars que j'ai rencontré la semaine dernière, c'est un Indien, il a monté une PME, ils sont une centaine de personnes, et ils vendent de l'électricité solaire à des paysans indiens. Et il bat tous les moteurs diesel ou essence pour créer des générateurs dans les villages. Son modèle, il est imparable. Il a adapté son organisation et il bat de façon économique avec des cellules solaires dont tout le monde sait que c'est encore un peu cher pour nos pays développés, mais il est en train de s'installer dans toutes les campagnes indiennes avec un business model qui marche, une technologie moderne. Il a fait un shortcut et ça marche. Il faut réfléchir à des cas comme ça parce que vu de Paris, c'est incompréhensible. Quand on écoute le gars qui l'explique, et c'est son entreprise, c'est son argent à lui, on comprend pourquoi ça marche. Et dès comme ça, je pense qu'il y en a tout autour de la planète, beaucoup. On ne les voit pas forcément depuis Paris, mais ils sont là.
François Veil.
J'ai une petite critique quand même à ces brillants exposés. C'est qu'on reste dans une logique qui est la transposition éternelle du système actuel. Or, il y a eu dans ce même amphithéâtre un exposé catastrophe sur l'avenir du pétrole, et pas spécialement sous l'angle de la raréfaction des ressources aussi rapide que prévu, comme l'a dit Hirschman, mais parce que ça allait devenir un lieu de conflit grave entre les nations développées anciennes et les pays nouveaux, comme la Chine, l'Inde, le Brésil et d'autres. Donc la raréfaction du pétrole, elle va plutôt venir de ça. Autrement dit, les paramètres actuels du transport humain, à mon avis, ils vont complètement changer d'ordre. Et c'est plutôt en termes de comment on va arriver à se déplacer, comment on va arriver à rendre collectif le déplacement, à trouver des solutions collectives, plutôt qu'à continuer à transposer un modèle de transport individuel. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que le véhicule électrique n'a pas d'avenir dans ce schéma-là, parce qu'on peut très bien considérer, alors là moi je serais plutôt d'avis de dire, c'est pas tellement la troisième voiture électrique, c'est la voiture unique électrique, plutôt que la multiplicité des transports individuels actuels. Autrement dit, je pense que le schéma d'avenir, c'est plutôt changer totalement l'habitude du déplacement tel que le modèle actuel.
Oui, là, ce qui avait été dit dans cette soirée, c'est qu'on parle beaucoup du picole géologique, mais il y en a un qui pourrait être beaucoup plus proche que le picole stratégique, du fait que les producteurs de pétrole sont des pays aussi commodes que l'Iran, le Venezuela, etc., et qui vont se mettre progressivement à utiliser le pétrole comme un moyen de marchandage plutôt que comme un rapport sur le marché. Et que donc l'horizon peut être de moins de 15 ans. C'était ça qui avait été dit il y a 2 ans dans cette salle. Ah bon, on va passer la parole à...
Oui, j'avais une remarque sur l'électricité et les batteries. Je suis utilisateur de vélo électrique. C'est très différent d'une voiture électrique, mais c'est un peu les mêmes problèmes, sauf la recharge. Il y a un problème qu'on a évoqué rapidement, et je pense que c'est une des limitations de la voiture électrique demain, c'est que les batteries ont une durée de vie courte et des performances qui décroissent. Donc entre la performance de départ et la performance un an après, on n'a pas tout à fait les mêmes résultats. Donc il faut aussi faire très attention à cela. Donc, l'autre observation rejoint un peu le débat qu'on vient d'avoir, et j'aurais voulu savoir si autour de la table, notamment M. Midler, moi j'étais très impressionné par ce qu'il a dit, parce que enfin ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent au-delà de la voiture électrique, j'espère, dans le modèle de transport tel qu'on nous le propose à l'horizon de 10, 15, 20 ans. Est-ce qu'on a une idée de l'argent dépensé publiquement en France entre la voiture électrique, l'amélioration du thermique et les autres modes qui pourraient amener à une baisse importante du CO2 indépendamment de la voiture?
Alors la batterie qui s'use?
Le lithium-ion, c'est une révolution technologique parce que précisément ça efface un grand nombre des problèmes de la batterie. Alors sur les durabilités de batterie, aujourd'hui les annonces qui sont faites par les différents constructeurs sont entre 2000 recharges et 7000 recharges. Et 7000 recharges, ça fait une recharge par jour pleine pendant 20 ans, 300 jours par an, c'est-à-dire largement plus qu'une durée de vie de voiture. Ce qu'on appelle une durée de vie, c'est on descend en dessous de 75% de la charge de la batterie. Hein. C'est aujourd'hui des données qu'on considère, nous. Et quand on dit 160 km d'autonomie, on parle aujourd'hui avec une batterie qui est descendue à 80% de sa charge. C'est-à-dire qu'au début, elle fera plus que ça, et ensuite, elle baissera de façon assez linéaire, d'ailleurs, jusqu'à 6 ou 7 ans. Ou plus pour ceux qui annoncent 7000 recharges. Sur l'arrêt du tout automobile, oui, mais 80% des déplacements aujourd'hui sont automobiles, des véhicules particuliers, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va bouger extrêmement vite. Par contre, oui, ce que nous pensons, c'est ce que je le disais dans le cas de l'autopartage, hein, qui est une manière de faire déjà avec moins de voitures dans un espace urbain comme Paris, et autant d'utilisateurs, hein, ou plus d'utilisateurs avec le même espace urbain occupé par les voitures, et ça, je pense que ça va changer. Je pense aussi qu'avoir une voiture électrique et louer une voiture le week-end une fois de temps en temps, c'est quelque chose qui va se développer. Ou avoir une voiture électrique en autopartage, on discute de ça avec la SNCF, et prendre le train et avoir à l'arrivée une autre voiture électrique, la même qui attend, etc. C'est des choses sur lesquelles, je pense, on peut encore beaucoup se... Énormément de choses vont changer, mais quand on monte un escalier, il ne faut pas monter les marches du haut avant d'avoir monté les marches du bas. Les marches du bas, c'est que cette masse de technologie qui concerne 80% des déplacements soit, elle, correctement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça fait quand même ça, un quart de la croissance prévue. Et ce n'est pas en France, hein, c'est en Chine, c'est en Inde, c'est au Brésil, c'est en Russie. Ces gens-là, ils veulent de la mobilité. Ce n'est pas vous qui allez leur interdire d'avoir de la mobilité. C'est clair.
Bien.
C'est un point sur le partage, là. Innovation sur véhicules thermiques et véhicules électriques. J'ai une réponse en plus et en moins. Le plus, c'est par exemple dans l'incitation dans les programmes publics, Prédit pour ceux qui connaissent. Majoritairement, c'est encore dédié à des programmes d'amélioration, soit de rubriques concernant tous les véhicules, aérodynamisme, poids, matériaux nouveaux, composites, etc., soit des améliorations spécifiques des motorisations thermiques. Bon. Le moins, c'est que quand on a fait notre rapport avec Jean Sirota, on a vu un peu tous les acteurs, et le moins qu'on puisse dire de façon pudique, c'est la complexité des rapports entre les équipementiers, Valeo, Bosch, etc., et puis les grands intégrateurs, qui sont les grands constructeurs automobiles. Je ne prendrai qu'un exemple, en restant prudent dans l'interprétation, qui est d'observer les aléas qui ont entouré l'introduction du dispositif Stop and Start, sur lequel les Français ont été précurseurs, puisque la première voiture qui a été assez confidentielle, en tout cas par sa publicité, ça a été chez le groupe Citroën PSA, et qu'aujourd'hui, à ma connaissance, toute la gamme des BMW est équipée de ce dispositif. On peut regretter un peu que le curseur n'ait pas été mis différemment dans l'introduction au grand public de ce dispositif qui, en ville, peut vous faire gagner facilement 30% de consommation.
Je vais prendre 3 questions, donc frustrer beaucoup de monde.
Bonjour, Fabien Berger, Altran Research, groupe Altran. Donc on parle de véhicules électriques, souvent le V de véhicule devient le V de voiture. J'ai découvert l'initiative de Renault il y a un an avec cette large gamme, je dis large gamme, quand même quatre véhicules électriques en même temps. Donc ma question s'adresse à M. Pellata. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un acteur qui s'engage de manière assez explicite sur le secteur du véhicule électrique, qui de par sa culture est spécialisé dans la voiture particulière, qu'est-ce qui l'empêche malgré tout de se positionner sur le marché du deux-roues électrique? Donc il y a une expérience peut-être malheureuse du deux-roues thermique chez Renault, il y a une expérience du deux-roues électrique gros cylindré, si je puis dire, qui elle aussi est plus ou moins malheureuse avec Vectrix. Qu'est-ce qui empêche? Est-ce que c'est un facteur technique ou d'autres facteurs, ou simplement un facteur culturel, du dominant design comme on a parlé? Voilà.
Je vais prendre deux autres questions.
Isabelle Cabot de Compagnie 21. J'avais une question qui concerne plutôt les business models. Et si je reviens pour m'expliquer un peu à l'usage de la voiture, je pense qu'on va tendre vers des usages où peut-être on ne sera plus chacun propriétaire de sa voiture, mais plutôt, vous en parliez à l'instant, des solutions d'autopartage, où je voyais monsieur devant qui intervenait en disant la voiture électrique c'est une seconde voiture, voire une troisième voiture. Peut-être demain la solution, c'est pas chacun a une voiture, deux voitures, mais chacun partage la voiture électrique pour les petits trajets, la grosse voiture pour les week-ends, le grand coffre pour les vacances, et des solutions d'autopartage. Et donc on a vu à travers vos différentes présentations l'apparition de nouveaux métiers de services de mobilité, d'opérateurs de mobilité. Et on voit bien que dans la voiture électrique, il y a un acteur électricien, il y a un acteur constructeur automobile, il y a un constructeur de batterie. Il y a aussi des opérateurs de mobilité qui apparaissent. Vous n'avez pas tellement parlé, et c'est sûrement un vaste sujet, de la valeur ajoutée, comment elle peut se répartir entre ces différents acteurs et ces différents métiers. Alors moi j'ai une question pour Patrick Pellata surtout. On voit sur ces métiers arriver des nouveaux acteurs, en fait, des start-up, Better Place en étant le plus gros et le plus connu. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le rôle des constructeurs automobiles? Est-ce qu'ils ne sont pas les mieux placés d'ailleurs pour se lancer dans ces nouveaux métiers? Alors question, est-ce que vous avez des projets en ce sens? Si oui, éventuellement lesquels? Et sinon, pourquoi?
Alors bon, il reste une question.
Christophe Gauvin, je voulais savoir si on pouvait rêver d'une voiture autosuffisante sur le plan de l'énergie. Vous avez dit tout à l'heure 15 000 km, 15 mètres carrés. Peut-on sérieusement penser à l'équipement de la voiture, proprement dit, en panneaux photovoltaïques?
Bon, je vais proposer aux quatre orateurs de conclure. Vous répondez dans l'ordre que vous voulez.
Donc sur le deux roues, si vous voulez, quand vous menez une offensive industrielle avec une innovation derrière, en tirant les ficelles, vous voyez que vous êtes sur un système assez gros, vous essayez de choisir le terrain où vous avez plus de chances de gagner, quoi. Donc les deux roues aujourd'hui, c'est fabriqué en Asie. Il n'y en a pas beaucoup en Europe et le bénéfice est petit sur un deux roues, en tout cas en Europe. Donc c'est la seule raison. Mais je sais qu'en ce moment, ça se développe très très vite en Chine. Ils fabriquent déjà 10 millions de vélos électriques. Les Chinois, ils sont en train de passer au lithium-ion avec des ordinateurs pour contrôler la charge et la décharge du vélo. Ils ont des scooters électriques. Déjà, ça va arriver et un jour, ça fera des voitures et elles seront compétitives, quoi. Mais voilà, on ne peut pas être là-bas. Nous, ce n'est pas réaliste, donc on démarre avec des marchés français, européens, américains avec Nissan et japonais avec Nissan. Et puis, on a énormément de demandes pour aller en Chine, mais pour l'instant, on garde ça pour plus tard. Le business model et la valeur ajoutée dans le business model. Comme vous l'avez vu, pour que le véhicule électrique fonctionne, il va falloir qu'il y ait beaucoup de choses qui s'adaptent. Et vous ne pouvez pas avoir une stratégie où, à chaque fois que je vois de la valeur ajoutée potentielle, je vais y aller, on ne sait pas tout faire. Donc nous, notre jeu... C'est quand on discute avec EDF, et ça fait déjà plus de 2 ans, pas loin de 2 ans et demi, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire, puis ensuite vérifier que dans l'ensemble du nouveau business model, il y a bien à chaque fois quelqu'un qui est en train de faire ce qu'il faut pour que ça marche. Et après, la valeur ajoutée, elle va se partager assez naturellement entre ces différents acteurs. Et franchement, les choses ne sont pas données au départ. Si vous voulez tout planifier avant, si vous voulez avoir toute la valeur ajoutée dans votre camp à vous, à la fin, vous êtes tout seul à jouer, il ne se passe rien, parce que précisément, il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui changent. Alors, dans d'autres pays, on a fait autrement. Sur Israël, on fait avec Better Place, qui fait beaucoup de choses. Mais Better Place, c'est une start-up qui est quand même pas mal aidée par l'avantage fiscal israélien. Ils essaient du coup de s'étendre ailleurs. On ne travaille pas forcément autant ailleurs avec eux qu'on travaille avec eux en Israël. Par contre, nous, c'est très important en Israël parce qu'avec eux, on apprend. tous les problèmes concrets dont on parle aujourd'hui, on est en train de les traiter avec eux sur Israël, du smart grid à la prise, la standardisation, etc., etc. Mais Israël, c'est une île. Donc ça nous permet d'apprendre en avance. Mais franchement, sur la France, par exemple, on espère faire énormément de choses avec EDF. C'est évident. Mais il y aura d'autres joueurs autour. Il y aura sans doute Better Place en France aussi, en complément, en parallèle avec EDF, sur la niche, entre guillemets, des gens qui roulent beaucoup, peut-être des taxis, qui ont besoin d'avoir un quick drop. Voilà, ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas à la fois dire une innovation nécessite un grand changement systémique et puis vouloir capter tout là-dedans. Le jeu consiste, et je crois que le monde moderne est comme ça, à aller chercher des réseaux, des acteurs qui se mettent ensemble en coopération, quelquefois complexe, pas toujours facile, mais c'est comme ça que le monde moderne fonctionne. Ça me ramène à la dernière question sur la voiture autosuffisante. La voiture autosuffisante, c'est non, il y a 2 mètres carrés, 3 mètres carrés de surface sur une voiture, je vous ai dit 15, mais 15 c'est en moyenne. Évidemment, quand vous voulez aller à 130 à l'heure sur une autoroute, il faut un spi solaire et on ne sait pas faire. Mais par contre, je vous donnais cette équivalence parce qu'elle est intéressante. Si vous vous projetez en Inde ou en Chine, vous pouvez imaginer que là, par contre, il peut se passer des tas de choses. À La Réunion, on ne va pas recharger les voitures la nuit parce que c'est une centrale à charbon, mais on va couvrir les parkings avec d'ailleurs EDF et quelques subventions du gouvernement. On va couvrir les parkings et les voitures vont charger autour des entreprises à l'ombre des cellules solaires et elles auront leur électricité pour la journée. Et croyez-moi, le bilan carbone, là, est facile parce qu'il n'y a pas besoin de passer par des choses très compliquées. On reste même courant continu, vert courant continu. C'est encore plus simple et c'est probablement pas très cher quand on regarde l'ensemble du système. Voilà, c'était simplement pour dire, et là je reviens un peu à la quête du Graal, on ne cherche pas le même Graal et c'est pour ça qu'il y a des différences. Notre Graal à nous, c'est, on est en train d'investir en ce moment 1 milliard d'euros, on met 20% de nos ressources de développement et d'investissement sur le véhicule électrique, et on pense que quand on fait ça, on fait bien jouer à Renault le rôle qu'il a historiquement joué d'innovateur. On pense qu'on utilise à plein les spécificités de la France. On est content de voir que le gouvernement français accompagne ce mouvement et a été le premier pays au monde à avoir déclaré les 5000 euros sur le véhicule, pas exactement le premier, sur les 5000 euros de véhicule électrique. Le premier à subventionner avec 900 millions d'euros la mise en place d'une infrastructure. Il nous a soutenus quand on a cherché à faire rentrer le CEA. Le CEA était évidemment très enthousiaste sur l'amélioration de la technologie des batteries. Donc on pense qu'on joue un rôle à la fois national, on pense qu'on joue aussi notre rôle, puisqu'on est une entreprise aujourd'hui qui joue sur tous les marchés mondiaux pour faire apparaître des solutions qui vont aider à résoudre les deux problèmes dont je parlais au début, la dépendance pétrolière d'un côté et le réchauffement de la planète de l'autre.
Alors, si les autres veulent dire un mot.
Peut-être un petit mot sur le Graal. Je suis complètement en phase avec Monsieur Pellata. Parce que, pour être encore plus clair, je veux dire qu'un constructeur automobile a droit à la plus haute estime pour ses initiatives et surtout pour les risques qu'il prend sur son territoire et à l'étranger. Ce que je voulais pointer, c'était, si c'est ça que vous pensez le Graal, là vous m'avez bien compris, c'était pour essayer de contrebalancer un discours ambiant, notamment médiatique, qui parle véhicule électrique de toutes les vertus en s'abritant derrière des politiques publiques. Et le véhicule électrique ne mérite pas ni autant d'indignité, ni autant d'honneur. Alors ma manière à moi de conclure, puisqu'on y est invité à faire un tour de rôle, c'est donc en toute cordialité et encore une fois en délivrant toute l'admiration qu'on peut avoir pour un groupe qui prend des risques, certains, on l'a bien vu. C'est pour ce qui concerne la France, moi je serais convaincu du décollage et de l'avenir radieux du véhicule électrique le jour où je verrai qu'en masse, Renault, Veolia, EDF s'équipent en propre, et La Poste aussi, s'équipent en propre de véhicules électriques pour des usages qui ont bien été exprimés comme étant en phase avec le profil du véhicule électrique. Alors est-ce que c'est maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est à eux de le dire.
Juste pour conclure, pas revenir sur les questions, moi j'ai un petit remords quand je repense à la courbe de Christophe Midler, qui est très éclairante, où il montre au début les pionniers, ensuite la majorité précoce, la majorité tardive, et puis les attardés, là. Et finalement, j'ai un petit regret parce que je me rends compte que j'ai trop insisté sur la première partie dans tout ce que j'ai dit. Mais c'est vrai que c'est ce qui nous préoccupe parce qu'on est pressé d'arriver au milieu. Mais si on regarde maintenant à long terme et qu'on y réfléchisse un petit peu, je ne sais pas si le Pico il est en 2015 ou en 2030. Mais je suis sûr qu'il n'est pas en 2050. C'est-à-dire, je suis sûr qu'en 2050, de toute façon, on ne pourra plus brûler beaucoup de combustibles fossiles. Et donc, le monde qu'il y aura à ce moment-là, c'est un monde qui devra fonctionner sans ça. Je ne sais pas si c'est du Graal, je ne sais pas si c'est visionnaire, mais on voit bien qu'il y a une place pour le véhicule à traction électrique sur le chemin qui va vers là.
Oui, moi juste une phrase aussi pour terminer et revenir à la notion de service. Je crois qu'une des caractéristiques de cette innovation véhicule électrique, c'est qu'elle mobilise évidemment énormément de professionnalisme technique, et c'est très classique dans l'automobile, hein, les services techniques, recherche, etc. Généralement, on dit c'est eux qui innovent, et puis ensuite les autres, ils poussent l'innovation jusqu'au marché. Ben là, justement, il y a tout un tas de professionnalismes qui sont au cœur de la réussite ou de l'échec de ce qui va se passer, justement parce qu'il y a des usages nouveaux. Il faut inciter, accompagner, voire forcer les apprentissages d'usage. Il faut construire du service, etc. Et ça, c'est des métiers qui n'ont pas forcément aujourd'hui l'habitude d'être impliqués dans les phases amont. C'est les métiers commerciaux, etc., qui vont jouer un rôle absolument central pour gérer les phases transitoires. Ces phases transitoires très difficiles parce que ben, quand on achète aujourd'hui, par exemple, la question de la revente de la voiture est classique dans une voiture où il y a un marché qui existe. Sur la voiture électrique, il n'y a pas encore de marché de revente. Donc, tout un tas de problèmes sur le professionnalisme commercial qui va être clé pour la réussite de cette innovation. Et donc, c'est une innovation vraiment passionnante à étudier, quoi, au moins.